Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec ou sans rendez-vous, par le professeur Olivier Lioncamp.
Bonjour. Avec ou sans rendez-vous est consacré aujourd'hui au bâillement. Le bâillement est un phénomène physiologique présent chez l'homme et aussi les animaux. Comment se déroule-t-il ? À quoi correspond-il ? Que signifie-t-il lorsqu'il disparaît ? Pourquoi au contraire survient-il avec une particulière fréquence chez les étudiants avant qu'ils passent un examen, chez les parachutistes avant leur premier saut, les violonistes avant un concert ? Telles sont les questions que nous allons aborder avec le docteur Olivier Waluzinski. Médecin généraliste dans le Perche, Olivier Waluzinski est devenu en quelques années le spécialiste du bâillement. Parcours singulier et remarquable, dont nous allons parler aussi, bien entendu. Olivier Waluzinski, bonjour.
Bonjour. Première observation, j'ai eu à m'occuper au début de mon activité professionnelle d'un jeune garçon qui à l'époque avait 16 ans et que j'ai vu jusque vers ses 23 ans pour des pathologies bénignes, en particulier des accidents de sport. Puis il s'est marié, a trouvé un emploi dans une autre région et je l'ai perdu de vue pendant 16 ans. C'est alors qu'un été, il avait donc maintenant 39 ans, qu'il est venu passer quelques jours dans sa famille et qui en a profité pour venir me voir et me demander mon avis sur un état qui le perturbait depuis plus d'un an, fait d'une grande lassitude physique, d'une asthénie, sans aucun état dépressif, et qui lui perturbait sa vie quotidienne et professionnelle. Et cette asthénie ne disparaissait pas ni pendant les vacances, ni après de bonnes nuits de sommeil tout à fait physiologiques et réparatrices théoriquement. Il avait consulté à de nombreuses reprises son médecin de famille, avait eu de multiples examens biologiques toujours normaux. Il lui avait été prescrit de multiples fortifiants, entre guillemets, qui n'avaient jamais changé sa lassitude dont il ne pouvait se débarrasser. L'examen physique au premier abord apparaissait normal, sans aucun signe d'appel. Il dormait 8 à 9 heures par nuit, n'avait aucune somnolence diurne anormale et se sentait constamment fatigué. C'est alors que je lui demande « Et bâillez-vous beaucoup ?» Et comme souvent dans ce genre de situation, comme une explosion, il me dit « Ah oui !» Parce qu'en fait, dans notre société, il semble que bâiller soit socialement défavorable et qu'il faut le masquer, le cacher. Et donc spontanément, alors que ses bâillements l'importunaient, il n'en parlait pas ni à son médecin ni à moi en parlant de sa fatigue. En réalité, il bâillait par salve, c'est-à-dire qu'une vingtaine de bâillements successifs en quelques minutes, répétés plusieurs fois par jour, pouvant faire plus de 200 bâillements par jour, sachant que nous bâillons moins de 10 fois de façon physiologique. Moi, j'avais une grande chance au point de vue médecine clinique, c'est que je l'avais perdu de vue pendant 16 ans. Et qu'en l'écoutant, en le regardant raconter son histoire, j'ai été frappé par son aspect physique, c'est-à-dire des doigts un petit peu en baguette de tambour, des arcades sourcilières un peu prononcées, un manteau qu'on appelle un prognathisme un petit peu saillant. Et j'ai envisagé une pathologie en lui disant « Nous n'allons faire qu'un seul examen biologique que vous n'avez jamais eu, nous allons doser une hormone. » Je pense que vous avez fait le diagnostic, bien évidemment, puisque vous savez que cette maladie a été décrite par André Marie en 1886 et qu'André Marie a occupé ensuite la chaire de neurologie de la Salpêtrière que vous occupez actuellement. Donc, cet homme avait un dosage d'hormones de croissance perturbé. Il avait 22 nanogrammes par millilitre alors que la normale est à 7 ou inférieure à 7 et que la somatomédine, qui est le ligand actif en périphérie, était à 1660 microgrammes pour une normale inférieure à 360, soit plus de 5 fois la normale. Donc, le diagnostic était une maladie qui s'appelle l'acromégalie. ce qui correspond à un adénome, une grosseur de la glande qui s'appelle l'hypophyse, qui fabrique trop d'hormones de croissance, avec une reprise de l'augmentation de croissance des os qui expliquait la transformation de son faciès. Il est probable que son médecin, qui l'avait connu pendant une quinzaine d'années de façon continue, n'avait pas remarqué ce changement lent et progressif, et que j'ai eu beaucoup de chance de le voir avec 16 ans d'interruption. Il a été opéré à la salpêtrière, et quelques jours après cette opération, l'ébahissement pathologique avait entièrement disparu. La fatigue a été beaucoup plus longue à disparaître. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est une dame de 61 ans qui a comme antécédent une psychose bipolaire, des migraines et de l'arthrose. Elle demande un avis car depuis plus de 2 ans, elle présente des épisodes très stéréotypés d'apparition brusque qui débutent par une sensation de gêne épigastrique ascendante angoissante suivie de bâillements irrépressibles d'une transpiration profuse. Ces bâillements se répètent pendant une trentaine de minutes. Secondairement s'installe une somnolence, une faiblesse, une fatigue générale qui dure plusieurs heures. La fréquence de ces épisodes varie mais sont récurrents plusieurs fois par jour tant pendant la veille que le sommeil. On lui a demandé déjà un électroencéphalogramme standard qui est revenu normal et une IRM cérébrale qui est revenue normale. Pourtant, ce tableau fait de crises très stéréotypées évoque a priori une épilepsie dont on n'avait pas pu faire la preuve. Donc on a proposé de lui faire une vidéo EEG de veille et de sommeil, c'est-à-dire qu'on l'a hospitalisé pendant 24 heures dans un service où non seulement on a enregistré en permanence son électroencéphalogramme, mais aussi on a filmé tout son comportement. Cet examen s'est révélé déterminant. En effet, après la réalisation d'une stimulation lumineuse intermittente et 2 périodes d'hyperventilation, débute une crise de façon abrupte. Bâillement en série à une fréquence de 3 à 4 par minute, chacun durant 15 à 20 secondes. L'épisode va durer 45 minutes. Progressivement, la fréquence des bâillements se réduit pour cesser avec la crise. Ces bâillements sont constamment accompagnés d'automatismes moteurs à titre de frottement du nez avec la main, de vocalisations associées à quelques mots répétés à connotation plaintive. L'électroencéphalogramme enregistré simultanément à cette crise montre un rythme de base ralenti, au niveau duquel s'intercale une abondante activité électromyographique propre au mouvement du bâillement. Il n'est pas noté d'onde spécifique ni d'activité paroxystique particulière tout au long de cet épisode. Ce parasitisme par électromyographie est un des soucis d'exploration du bâillement. Mais pendant la période post-critique immédiate, la patiente s'endort en sommeil lent, avec un micro-éveil au bout de 5 minutes, puis une deuxième phase de sommeil lent. Et c'est à ce moment-là qu'on enregistre une activité paroxystique à type de pointe-onde au niveau temporal gauche, sans diffusion aux aires homologues contralatérales ni généralisation. À son réveil, la patiente est amnésique de sa crise, des bâillements et des automatismes tant moteurs qu'aux vocaux qui les accompagnaient. Le diagnostic de crise épileptique temporale complexe mésiale a conduit à en mettre en route un traitement par de l'oxycarbamazépine à 300 mg toutes les 12 heures et en moins de 2 semaines, toute sa symptomatologie a disparu et n'est jamais réapparue depuis.
Alors, Olivier Waluzinski, vous racontez 2 observations, là, à la fois très illustratives mais aussi complexes.
Oui.
Là où finalement, la première, le bâillement accompagnait une anomalie de la région hypophysaire, une tumeur de l'hypophyse, l'acromégalie. Bon, on va discuter de ça, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bâillement était symptomatique ou non de l'acromégalie, ou bien est-ce que c'était un phénomène d'accompagnement? Et puis, la deuxième observation, qui est encore plus complexe, où finalement, le bâillement est le témoignage d'une crise d'épilepsie localisée à certaines régions du cerveau. Et pourtant, on considère que le bâillement est un phénomène physiologique. Tout le monde bâille. Bon, et vous qui êtes médecin, finalement, c'est quelque part très intéressant que, à un moment quelconque de votre parcours, vous vous soyez intéressé à un phénomène physiologique. Le médecin, il s'intéresse plutôt généralement aux maladies, aux manifestations pathologiques, mais il ne s'intéresse pas beaucoup à la physiologie. Exemple, un pédiatre ne s'intéresse pas obligatoirement à la succion, par exemple. hein, qui est un phénomène réflexe, et puis ensuite, bon, là, le bâillement, c'est un phénomène physiologique, c'est pas parce que vous bâillez en ce moment, alors que je suis en train de vous parler, que, obligatoirement, vous êtes atteint d'une maladie. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous, Olivier Waluzinski, médecin généraliste à la fois singulier dans le grand sens du terme et curieux de tout, vous avez porté un jour votre attention sur le bâillement?
Il est probable que déjà j'ai fait des études de médecine parce que depuis tout petit, je me posais des questions de savoir comment mon corps fonctionnait. Et ça m'avait toujours intrigué depuis que j'étais un petit enfant. Et je me suis toujours demandé pourquoi je bâillais sans vraiment chercher à comprendre pourquoi. Pendant mes études de médecine, on ne m'en a jamais parlé, bien évidemment. Mais environ 2 ans après que je me sois installé dans ma campagne, j'ai été confronté à un jeune homme d'une 30aine d'années qui est venu me voir parce qu'il bâillait tout le temps. Et effectivement, en face de moi, une fois ou deux fois par minute, il bâillait de façon ininterrompue. Et je ne savais absolument rien sur le sujet puisqu'on ne m'en avait jamais parlé pendant mes études. Et je n'ai rien su faire ni comprendre. J'ai sûrement été très mauvais puisque je ne l'ai jamais revu et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais ça m'a blessé un petit peu dans mon amour-propre de ne rien savoir, de ne rien comprendre. Donc je vous avais posé la question à l'époque de savoir de quoi il fallait penser de cette situation. Et j'ai commencé un petit peu à aller fouiller à la bibliothèque de la rue de l'école de médecine pour trouver des données. Il faut savoir que donc c'était en 1978, il n'y avait pas encore l'informatique comme maintenant et les recherches étaient avec des petites fiches et prenaient beaucoup de temps. Le premier article que j'ai retrouvé était écrit par Jacques Barbizet, daté de 1958. Avait comme intérêt d'abord d'avoir une bibliographie qui permettait d'aller plus loin et de remonter plus loin, mais surtout ce neurologue avait à l'époque fait des examens radioscopiques, il est le seul à avoir fait, ça n'a jamais été refait depuis. Au cours du déroulement du bâillement, il a montré que les voies aérodigestives, enfin surtout aériennes supérieures, le pharynx, le larynx, se dilataient de 4 fois par rapport à la position de repos de base. Et c'est l'unique situation de notre vie physiologique où nous ouvrons tant nos voies respiratoires supérieures. Et donc c'est assez intriguant. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que c'est qu'un bâillement. Un bâillement, c'est en fait une contraction musculaire très intense de tous les muscles du visage, du diaphragme qui entraîne une inspiration ample avec une synchronisation des mouvements de la nuque qui porte la tête en arrière et qu'on retrouve dans tout le monde animal. Et si je me permets d'attirer l'attention de vos fidèles auditeurs, ils ont au mois de novembre écouté 2 émissions remarquables avec Bruno Dubois qui a parlé des comportements et en particulier de ce qui caractérise les hominidés et l'homme en particulier, c'est-à-dire l'activité du lobe frontal, des activités élaborées de planification. Alors que là, aujourd'hui, nous abordons un bâillement qui est un phénomène physiologique extrêmement répandu chez quasiment tous les vertébrés et qui est donc l'émanation d'une structure beaucoup plus archaïque au point de vue phylogénèse qui se situe dans ce qui s'appelle le diencéphale, c'est-à-dire en particulier l'hypothalamus, cette structure de noyau gris qu'on a à la base du cerveau sur la paroi du 3e ventricule et qui est au-dessus d'une tour de contrôle qui contrôle les hormones circulantes qui s'appelle l'hypophyse. Le noyau paraventriculaire, il est en relation avec le système.
Le noyau paraventriculaire, c'est un noyau
de l'hypothalamus. C'est une des parties de l'hypothalamus. Et dans cette structure, il y a même des zones en plus précises et qui ont des fonctions dans ce qui s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire les régulations de nos fonctions vitales auxquelles on ne pense pas, c'est-à-dire que nous ne réfléchissons pas à régler la température de notre corps, notre fréquence ventilatoire, à accélérer ou freiner notre cœur en fonction de notre activité. Tout ça se fait de façon automatique. C'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome ou végétatif, qui est donc fait d'un système stimulant, qui est le système sympathique, avec une articulation hormonale par la glande surrénale et l'adrénaline, et un système freinateur qui donc a fait l'effet inverse, d'apaiser. Il y a toujours un équilibre constant, sachant que ce phénomène d'homéostasie, c'est-à-dire de constance du milieu intérieur, est fondamental pour notre survie et en même temps un obstacle quand on réfléchit au phénomène de l'évolution, puisque cette fixité, cette résistance aux variations est impropre à l'évolution. Et en réfléchissant à tous ces systèmes, on s'aperçoit que dans l'évolution des espèces, quand il y a eu mutation, évolution, il y a toujours création d'un phénomène qui se surajoute au phénomène existant avec le maintien d'une faction ancienne, avec une redondance qui permet de maintenir les fonctions vitales essentielles, comme par exemple il y a plusieurs systèmes qui stimulent l'éveil, il y en a un qui permet de l'endormissement, il y a plusieurs systèmes qui mettent la glycémie à la hausse, un seul qui fait baisser la glycémie. Et ainsi de suite, il y a toujours les fonctions de survie de l'individu et permettant la survie de l'espèce qui sont redondantes, alors que la loi de la nature, c'est le manque. Il n'y a que l'homme qui a créé l'excès.
Mais alors revenons au bâillement là-dedans.
Alors le bâillement, il est donc phylogénétiquement très ancien. Il apparaît déjà chez les reptiles, donc un cerveau très archaïque, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas de lobes frontaux, il ne planifie pas ses actions. Et ça apparaît donc chez des êtres qui sont poïkilothermes, c'est-à-dire qui n'ont pas de régulation de leur température, justement, qui n'ont pas ce système qui leur permet d'être actifs, quelle que soit la température extérieure. Et donc le bâillement existe déjà à ce niveau-là. En corollaire, il y a la loi de Von Baer, hein, qui est au niveau de l'évolution, un comportement qui est très archaïque et ontogéniquement très précoce, c'est-à-dire qu'il apparaît entre la 12e et la 13e semaine de grossesse, c'est-à-dire très tôt dans la vie fœtale, et sans doute parce qu'il est très ancien. C'est un phénomène musculaire très important et on peut se dire que ça a un coût métabolique très élevé pour un fœtus, donc probablement une fonction essentielle dans la neurogénèse. Il apparaît à un moment où c'est le tronc cérébral qui est la première structure cérébrale fonctionnelle, bien avant que le cortex soit myélinisé et fonctionnel. Il apparaît simultanément au phénomène de la déglutition, des premières stimulations du diaphragme et des premiers mouvements de ce qui deviendra la ventilation. Il y a un certain nombre de pathologies dont on parlera tout à l'heure, ou de malformations qui font que dès ce stade, le bâillement n'apparaît pas.
Mais vous voulez dire que dès le troisième mois de la vie fœtale, on sait que le fœtus bâille.
J'ai, de par mon casquette d'échographiste et de suivi de grossesse en échographie, enregistré à 12 semaines de grossesse en écho 3D un magnifique bâillement fœtal.
Alors, Olivier Waluzinski, là, vous nous racontez ce qui finalement vous a conduit à être aujourd'hui un spécialiste du bâillement, mais en 1978, reprenons votre vie de médecin, vous connaissiez rien au bâillement. Vous voyez donc un jour un patient qui vient vous voir et vous êtes démuni parce que toutes les 10 secondes devant vous, il se met à bâiller de façon irréversible, incontrôlable. Bon. Votre cheminement après, ça a été quoi? Parce que tout le monde n'est pas interpellé. Moi, je connais 98% ou 99% des médecins qui seraient restés là et qui auraient dit « Bon, je ne comprends pas, continuons notre vie. » Bon, mais vous, qu'est-ce qui a particulièrement motivé votre action?
Je trouvais ça curieux et puis j'ai quand même constaté que la pauvreté dans mes recherches, des publications... Il n'y a eu en France que 3 thèses consacrées au bâillement au XXe siècle, toutes facultés de médecine confondues, dont l'essentiel, la principale, est une thèse de 1901 d'un médecin militaire qui s'appelle André Trottmann, qui après a fait toute sa carrière comme médecin en Afrique et n'a jamais retravaillé le bâillement. Et sans ça, des
thèses... Peut-être qu'il a travaillé sur la maladie du sommeil.
Voilà, non. Il a fait de l'ethnographie. Après, c'est des thèses qui ont surtout été faites par des stomatos à cause des conséquences sur l'articulation temporomandibulaire du bâillement. Mais en fait, j'étais un peu curieux de penser que quelque chose d'aussi fréquent, courant, qui nous concerne tous, est si peu intéressé les médecins. Et puis, il se trouve que donc au début, j'ai fait ça de temps en temps, mettons une fois par an, j'allais regarder quelques fiches à la faculté de médecine. Et dans les années 80, il y a eu une efflorescence de publications qui ont concerné la pharmacologie animale, parce qu'il est apparu que le bâillement était un bon reflet d'un certain nombre de neuromédiateurs qui étaient étudiés par les pharmacologistes, qui étudiaient des psychotropes, c'est-à-dire des maladies qui manipulent le système nerveux, et en particulier qui soit stimulent la fabrication de la dopamine, soit la bloquent, et qui sont soit des agonistes, comme on dit, dopaminergiques, soit des médicaments qui s'appellent des neuroleptiques, qui bloquent l'action de la dopamine.
Bon, donc petit à petit, vous avez entrouvert ces portes, ouvert ces portes,
voilà.
Vous avez recueilli des informations.
Voilà.
Et puis
ça me trottait toujours dans la tête et j'ai eu, à la fin des années 90, où j'avais déjà une documentation assez importante chez moi, envie de faire une petite enquête personnelle, c'est-à-dire que pendant 15 jours, j'avais bâti un interrogatoire et j'ai soumis tous mes patients. Après la consultation classique, quel que soit le motif de leur consultation, une quinzaine de questions sur leur bâillement, quand est-ce qu'ils bâillaient, à quel moment de la journée, à quelle fréquence estimée, puisqu'on spontanément ils n'avaient jamais réfléchi à la chose. Et puis j'en ai tiré un petit travail modeste, mais que j'ai proposé à une revue professionnelle qui s'appelle la Revue du Praticien, qui a été accueillie avec enthousiasme à l'époque par la rédaction et qui a été publiée en...
Alors qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce que disait cette enquête ?
Elle reprenait en fait des choses qui retrouvaient des enquêtes faites aux États-Unis, sachant que deux psychologues américains, en particulier Robert Provine de l'Université de Maryland, avaient fait des travaux là-dessus. C'est que nous bâillons essentiellement le matin après le lever, en associant ce bâillement à un étirement musculaire qui a le joli nom d'une pendiculation, PADICULASTN, et en fin de journée quand on est fatigué. Et puis... Le bâillement apparaît aussi dans des circonstances qui sont liées à l'alimentation et la sexualité. Et ça mettait en évidence, par exemple, qu'une femme enceinte bâille beaucoup plus qu'une femme qui n'est pas enceinte. Ça permettait de constater que les parents qui avaient des enfants, des nourrissons en bas âge, avaient remarqué que leurs nourrissons bâillaient beaucoup. Mais c'est surtout les suites de cette publication qui a eu un certain écho auprès de nos confrères. Et j'ai reçu une quinzaine de lettres à l'époque, de médecins de famille comme moi qui étaient confrontés à des patients qui bâillaient de façon excessive et pour laquelle ils n'avaient aucune information et ne savaient rien sur le sujet. Et puis à cette époque-là, l'informatique existait, les recherches étaient plus simples. Et j'ai eu l'idée de mettre, comme on dit, en ligne un petit peu de tout ce que j'avais accumulé, de créer un site internet. Et je l'ai mis en ligne le 1er janvier 2001. Donc il a 8 ans maintenant. Il y a une lettre mensuelle qui fait part de tous les sujets d'actualité dans ce domaine. Et il y a 3500 abonnés à cette lettre, essentiellement anglophones et d'Amérique du Nord, mais aussi des Français, des Européens. Et puis, curieusement, en Afrique du Sud, en Australie, ça a l'air de beaucoup intéresser les médecins et les confrères de ces régions.
Donc, le monde de la médecine s'éveille aujourd'hui au bâillement.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a permis de faire des rencontres passionnantes et de m'ouvrir à des domaines que la médecine ignore, comme l'éthologie animale, de rencontrer mon ami maintenant Bertrand Dupute, qui est professeur d'éthologie à l'école vétérinaire de Maison Alfort, qui avait fait sa thèse sur le bâillement chez le macaque et le bâillement sexuellement intéressant chez le macaque.
On va en parler. On va en parler. Alors justement, maintenant qu'on a vu un peu votre parcours personnel, l'amoncellement de connaissances que vous avez acquises, j'aimerais qu'on voit un petit peu avec une certaine distance quand même, mais ce qu'on sait aujourd'hui sur le bâillement. Alors vous nous avez dit que le bâillement, il apparaît finalement très tôt au cours de la vie fœtale, dès le troisième mois, et que ce bâillement est particulièrement fréquent, on le sait, mais ça, tous ceux qui ont été parents un jour l'ont observé, chez l'enfant. Hein, l'enfant dort beaucoup et il bâille beaucoup. Alors, évidemment, la question qui vient à l'esprit, avant qu'on aborde d'autres sujets, c'est est-ce qu'il y a une relation entre sommeil et bâillement ? Et je veux dire, ça ouvre la réponse à une question que tout le monde se pose. Est-ce que je bâille parce que je suis fatigué?
Alors, le bâillement, c'est un comportement. À une époque, j'ai eu la malheureuse idée de dire que c'était un réflexe, et c'est faux. C'est un comportement transitionnel, c'est-à-dire qu'il apparaît à certains moments entre deux changements d'activité. Et il est lié à trois phénomènes fondamentaux de la vie. Nous sommes sur la Terre qui tourne, qui a des jours de 24 heures avec une alternance de lumière et de périodes de sombre. Et la nature, pourquoi ça reste un débat, a obligé tous les êtres vivants vertébrés à avoir du sommeil et probablement aussi des insectes. Deuxièmement, nous avons besoin de survivre et de nous alimenter. Et donc, il y a des périodes où nous avons faim, des périodes où nous avons trop mangé. Et à chaque fois que nous sommes dans ces périodes, nous voyons apparaître des bâillements. Et puis ensuite, c'est démontré dans certaines espèces animales, et peut-être chez la femme pour les hominidés, il existe des bâillements qui sont liés à la sexualité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que trois phénomènes, le rythme veille-sommeil, voilà. C'est-à-dire l'alternance jour-nuit, la satiété et le fait d'avoir besoin de capter de l'énergie pour survivre, et la survie de l'espèce, c'est-à-dire la reproduction, trois fondements de la vie, et à chaque fois on retrouve le bâillement.
Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les relations, par exemple, entre bâillement et le cycle veille-sommeil ?
Si on veut reprendre un petit peu le sommeil il est fait de cycles qui durent environ 90 minutes, fait de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Et on pense que le sommeil profond est un mécanisme de récupération, de réparation. Et donc, en fait, il semble qu'il y ait des transitions comportementales et des modifications des phénomènes de ce qui s'appelle l'homéostasie. Et que le bâillement soit l'extériorisation par un phénomène moteur de phénomènes homéostasiques. C'est-à-dire que quand un certain nombre de neuromédiateurs augmentent leur activité, ils peuvent déclencher ce phénomène moteur. Ensuite, il est probable que cette activité motrice puissante, très importante, éventuellement de tout le squelette des muscles qui luttent contre la gravité, a un effet de rétrocontrôle qui agit sur les structures de notre éveil et que ça augmente l'activité des hormones comme l'hypocrétine, comme l'histamine, comme la dopamine, et tout ce qui concourt à stimuler notre éveil. On comprend le lien qu'il peut y avoir avec la satiété et la reproduction, parce qu'un animal qui n'a pas mangé doit lutter contre le sommeil pour trouver sa pitance. Sans ça, il ne va pas survivre. Et d'autre part, pour faire des conquêtes et s'accoupler, il a besoin d'être très éveillé.
Avec ou sans rendez-vous, l'émission médicale de France Culture qui est consacrée aujourd'hui au bâillement. Et notre invité est le docteur Olivier Waluzinski, qui est un remarquable médecin généraliste dans le Perche et qui est aujourd'hui un des meilleurs spécialistes du bâillement. Alors, Olivier Waluzinski nous a décrit les conditions dans lesquelles on observait un bâillement, qui est en fait un phénomène tout à fait physiologique chez l'homme comme chez les animaux, à l'exception, semble-t-il, de la girafe qui ne bâille pas. Ce bâillement, phénomène physiologique, apparaît très tôt au cours de la vie, c'est-à-dire que chez le fœtus, dès le troisième mois, on observe des mouvements de bâillement et on sait aussi que chez le tout petit enfant, le bâillement est particulièrement fréquent. Pourquoi bâille-t-on? Et Olivier Waluzinski commençait à nous expliquer cela il y a quelques instants. On bâille finalement lorsqu'il y a des modifications de situation dans des moments, je dirais, essentiels ou importants à la vie et à la survie de l'espèce. Ces moments importants, c'est le passage des cycles de l'éveil au sommeil ou à l'inverse du sommeil à l'éveil. On bâille pour s'éveiller, mais on bâille aussi parce qu'on est fatigué. Deuxième situation sur laquelle maintenant Olivier Waluzinski va nous entretenir, c'est le bâillement et la sensation de faim ou le bâillement et la sensation de satiété. Et puis il y a, troisième point, bâillement et reproduction, certains comportements étant particuliers à ce moment-là lorsque on est dans des manœuvres de séduction du mâle vis-à-vis de la femelle. Mais j'aimerais, avant qu'on reprenne cette histoire de satiété, est-ce que finalement on bâille ou pas pour s'oxygéner, Olivier Waluzinski?
Ça, il faut reprendre un petit peu l'histoire de la médecine. Hippocrate, dans son traité des vents, envisageait que le bâillement était comme une soupape qui me permettait à l'air de sortir un petit peu comme une chaudière avec la fumée. Et au XVIIe siècle, début du XVIIIe, un médecin hollandais qui s'appelait Johan de Gorter avait bâti une théorie que ça améliorait la circulation sanguine et que ça permettait d'oxygéner le corps et le cerveau. Cette théorie, jamais démontrée, a perduré jusqu'au XXe siècle, est encore largement répétée, alors qu'il suffit de réfléchir que si le fœtus bâille dans un milieu liquidien, les poissons bâillent dans l'eau, et le marathonien, quand il court, on ne le voit pas bâiller à chaque foulée, alors il a besoin de beaucoup d'oxygène. Donc ça, il faut tordre le cou à cette notion, c'est archi faux. On n'oxygène absolument pas notre bâillement. Robert Provine a fait des mesures de gaz du sang, de gaz inhalé, expiré, dans des multiples conditions expérimentales. Il n'y a aucun effet ventilatoire dans le bâillement. Le bâillement, c'est un phénomène musculaire qui touche le diaphragme, donc il y a une ample inspiration, mais c'est le phénomène musculaire qui a une conséquence sur notre système nerveux et sur nos systèmes d'éveil.
Est-ce que c'est pour ça, finalement, l'exemple que je citais tout à l'heure du parachutiste à son premier saut qui bâille, oui, beaucoup, d'ailleurs qui vient des expériences et des observations de Provane, hein, oui, et alors que le parachutiste entraîné ne bâille pas avant de sauter?
Alors, il y a plusieurs choses. On est passé un petit peu vite sur la physiologie. Tout à l'heure, j'ai parlé du noyau paraventriculaire de l'hypothalamus. En son sein, il y a des neurones qu'on appelle ocytosynergiques, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants de la fabrication d'un neuromédiateur qui s'appelle l'ocytocine, qu'on retrouve au moment de la lactation, au moment de l'accouchement, mais qui, dans le monde animal, est très important pour la fabrication du lien affectif entre la mère et son enfant ou son fœtus et le petit qu'elle vient de mettre à bas. Et c'est tout un système qui est une manifestation du système parasympathique, c'est-à-dire du système de freination. Après avoir eu une stimulation du système sympathique, c'est-à-dire de l'activation du stress, on a besoin de retrouver son calme et sa sérénité, et donc on active le système parasympathique avec notamment l'ocytocine. Et dans des conditions comme une compétition sportive, à l'approche d'un concert pour un chanteur d'opéra, il y a besoin de réguler son stress, ce qui s'appelle le tract, et le bâillement est une façon de décontracter, qui est d'ailleurs utilisée largement par les professeurs de yoga qui ont remarqué qu'en faisant des cours de relaxation, ils arrivaient à déclencher des bâillements chez leurs élèves et que ceux-ci se sentaient mieux. Parce que nous ne l'avons pas dit, mais il y a une sensation de bien-être après un bâillement. Elle est brève, mais elle est jouissive.
Alors, bâillement et éveil, sommeil, on l'a vu. Bâillement maintenant et sensation de faim ou de satiété.
Dans ce noyau paraventriculaire, il y a une action d'un certain nombre de neuromédiateurs et d'hormones, dont une de connaissance récente qui s'appelle la gréline, qui est fabriquée en particulier au niveau de l'estomac et qui nous donne l'envie de manger, qui nous donne faim. Quand on fait expérimentalement une injection de microdose de gréline dans le noyau paraventriculaire, on entraîne des salves de bâillement. Et il est probable que c'est par ce biais qu'il y a des bâillements. C'est le reflet de cette nécessité que nous avons de nous alimenter à certains moments, quand les réserves énergétiques diminuent, et que nous avons besoin d'être pleinement éveillés pour chercher notre nourriture.
C'est pour ça qu'on bâille quand on a faim.
Voilà. Et d'un autre côté, quand on a trop mangé, il y a aussi des bâillements, parce qu'en fait, très généralement dans le monde animal, on dort après avoir mangé. Hein, et donc là, il y a toujours cette lutte qu'il y a, et qui est en fait un échec, puisqu'on s'endort quand même, mais pendant quelques instants, on essaye de rester éveillé en bâillant.
Finalement, est-ce que le bâillement, ce n'est pas le reflet de périodes de transition?
C'est entièrement ça, c'est tout à fait, ça n'existe qu'au moment de transition comportementale.
Transition comportementale, si ce n'est que quelquefois, ces phases de transition doivent être tellement fréquentes qu'on bâille comme votre patient.
Oui, mais là, on est dans la pathologie, c'est différent.
Très bien.
Mais ce qu'il faut dire quand même pour compléter ça, c'est que quand on regarde le monde animal, on s'aperçoit que être carnivore ou être herbivore change la donne. Quand on est un carnivore, on n'a pas trop le risque de se faire manger par un autre. Et en général, on a un grand luxe de sommeil parce que la ration alimentaire qui est consommée, c'est des protéines, c'est riche, sous un petit volume, rapidement absorbé. Et on n'a pas besoin de se dépenser pendant des heures et des heures pour capter de l'énergie. Par contre, quand on est un herbivore, on a besoin de passer des heures et des heures à nourrir parce que l'herbe, les végétaux, c'est un très mauvais rendement énergétique. Il en faut en absorber beaucoup pour arriver à fabriquer des protéines à partir de l'herbe. Et on s'aperçoit que les temps de sommeil des animaux sont très différents quand ils sont...
Selon qu'ils sont herbivores ou carnivores.
Et là, on revient à quelque chose que nous n'avons pas évoqué, mais qui me paraît très important, c'est qu'on retrouve toujours un lien entre la durée du sommeil paradoxal
et
le bâillement. C'est-à-dire que chez l'enfant, qui a donc un cerveau immature, il y a beaucoup plus de sommeil paradoxal qu'à l'âge adulte, il y a beaucoup plus de bâillement. Quand vous êtes un carnivore et que vous mangez beaucoup et de la viande et que vous dormez beaucoup, vous avez beaucoup de bâillement. On voit tous les chats, les chiens de nos maisons bâiller beaucoup, et les lions, c'est connu, il y a de magnifiques photos de tigres, de lions qui bâillent. Par contre, un cheval bâille rarement, mais il y a des photos. La vache, on ne la voit pas souvent bâiller, mais elle bâille. Et les moutons aussi.
Et la girafe?
Et la girafe, elle a un métabolisme très particulier à cause de son grand cou, un volume courant qui est énorme, une fréquence cardiaque qui est très lente, et elle ne dort que 3 à 5 minutes à la fois. Elle a un rythme très particulier de vie, et on n'a jamais constaté de bâillement. Il y a le même phénomène chez un certain nombre de cétacés, chez les dauphins, qui ont un sommeil très particulier puisqu'ils dorment d'un seul hémisphère à la fois. Et jusqu'à présent, on n'a pas constaté de bâillement chez eux.
Alors, troisième élément, et non des moindres, bâillement et reproduction.
Alors là, c'est démontré dans 2 voire 3 espèces animales, c'est-à-dire chez le macaque, où il y a, en dehors des bâillements tout à fait physiologiques, comme chez tous les autres animaux, un bâillement du mâle dominant qui est testostérone dépendant.
Testostérone, c'est
l'hormone mâle. Et qui, c'est un bâillement qui précède et qui suit l'accouplement. Il y a eu une époque où certains éthologistes ont parlé de manifester un signe de menace, ce qui est sûrement faux, puisque quand on bâille, on porte la tête en arrière, on ferme les yeux, on s'occupe plus de ce qui passe autour, donc on n'est pas menaçant. Mais par contre, l'expérience a été faite, si on castre ce mâle dominant, ses bâillements disparaissent, il perd son statut de dominant. Donc il semble que cette ouverture de la bouche, qui montre des canines beaucoup plus prononcées chez le dominant que chez les autres, soit d'afficher son statut de dominant vis-à-vis des autres, et qui donc il a beaucoup plus de femelles à sa disposition pour assurer sa reproduction et la transmission de ses gènes. Il y a la même chose chez l'hippopotame. L'hippopotame est un animal extrêmement agressif et qui se combat entre mâles souvent en s'entretuant, et le dominant baille beaucoup. Je n'ai jamais lu de travaux où on ait castré les hippopotames, ça doit être assez compliqué à faire. Mais en tout cas, il est très net, il y a toute une thèse qui a été faite sur ce sujet dans les années 50, que l'hippopotame mâle baille beaucoup plus que les autres mâles, et en particulier avant et après l'accouplement. Et puis, il y a des lignées de rats qui ont été génétiquement transformées pour bâiller beaucoup, beaucoup plus, pour faire de la pharmacologie animale. Et là, on retrouve aussi ce bâillement prédominant chez les mâles.
Je vois que le bâillement a beaucoup intéressé les gens qui s'occupent, qui travaillent sur les
quand
animaux.
On fait des comportements, le bâillement, ça s'affiche, c'est manifeste, c'est flagrant. Ça a aussi intéressé des gens qui se sont occupés des autruches. Le bâillement, c'est une forme de communication non verbale. Et par exemple, quand il y a des migrations d'autruches en Australie, quand plusieurs autruches se mettent à bâiller, c'est le signe qu'il y a besoin de s'arrêter, et la troupe s'arrête et dort. On retrouve la même chose chez les poissons. Quand vous mettez un petit peu d'ACTH dans l'aquarium de vos poissons rouges, vous les verrez bâiller. Alors, je peux vous expliquer comment on voit un poisson bâiller. Un poisson qui bâille arrête sa nage, sa propulsion s'arrête, il descend quelques centimètres ou quelques mètres dans l'eau, et il a toutes les nageoires en érection, en pendiculation en fait, et c'est comme ça qu'on remarque le bâillement. Les ouïes sont grandes, largement ouvertes. Et dans certains nombres de poissons particulièrement agressifs, si vous mettez un miroir dans l'aquarium, le poisson se jette sur sa propre image, ou si on met un congénère, il va attaquer le congénère et il commence par bâiller, à nager dans tous les sens avec des grands bâillements, et après il se jette sur soit son image, soit un concurrent.
Mais vous restez bien sur l'idée que le bâillement correspond à un phénomène de transition, c'est-à-dire on le voit, le passage à l'acte,
voilà,
et aussi après l'accomplissement de l'acte.
Tout à fait.
C'est bien ça.
On le retrouve un peu en pharmacologie animale, parce que quand on étudie ce neuromédiateur qui s'appelle la dopamine, il y a un effet de dose, c'est-à-dire si vous mettez une très forte dose, vous avez ce qu'on appelle des stéréotypies, des mouvements musculaires désordonnés, des contorsions, et il faut une certaine dose, ni trop faible ni trop forte, pour stimuler le bâillement. Donc on a bien l'impression que c'est un effet de dose, c'est toujours un comportement transitionnel.
Il y a beaucoup de gens qui observent que lorsqu'il y a un bâilleur dans une réunion, le bâillement devient vite contagieux.
Tout à fait.
Ce qui est toujours très désagréable pour celui qui parle. Alors, bâillement et contagion, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ?
Déjà, vous, en tant que professeur, vous avez certainement remarqué qu'il y avait trois catégories d'auditeurs quand vous êtes dans un amphithéâtre. Il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui dorment, là c'est un peu foutu, et il y a ceux qui baillent. Ceux qui baillent, c'est ceux qui en fait ont fait la fête le soir, sont fatigués, mais voudraient bien vous écouter, mais ils baillent pour essayer de rester éveillés. Donc là, il suffit de faire un joke, un mot d'humour et quelque chose, de les stimuler un petit peu, et vous allez voir disparaître leur bâillement. La contagion du bâillement, c'est déjà un très mauvais terme, puisque le terme contagion suppose la transmission d'un vecteur, d'un virus, d'un microbe, et là, il ne se transmet rien. L'éthologie parle de réplication, et Jean-Martin Charcot, à la fin du 19e siècle, avait trouvé le meilleur mot qui existe, c'est une échokinésie, c'est un mouvement en écho. Il y a dans la nature de multiples mouvements automatiques en écho. Quand nous marchons sur un trottoir d'une grande ville et qu'il y a quelques pigeons, un pigeon nous voit et toute la troupe s'envole alors qu'ils ne nous ont pas vus. Et en fait, quand on regarde un groupe de spectateurs d'une partie de pétanque, et si vous prêtez votre attention aux spectateurs, vous verrez que beaucoup feront les gestes, les inclinations du corps de celui qui va tirer la boule. Donc nous avons dans notre cerveau des neurones très particuliers qui ont été mis en évidence par des Italiens à Parme qui s'appellent Risolati, Galese et Fardiga, qui dans les années 95-96 ont montré que dans la région qui contrôle nos mouvements, dans la frontale ascendante, pas loin de l'aire de Broca et du langage, qui est très intéressant au point de vue de la conception du langage, on trouvait des neurones qu'on appelle les neurones miroirs. Ces neurones miroirs, en fait, sont les vecteurs de la compréhension de l'intentionnalité. Quand vous faites un geste, vous avez dans votre cerveau l'activation de neurones qui commandent le même geste, mais en fait, ce mouvement est inhibé, sauf dans certaines pathologies, et vous en comprenez le sens en mimant ce mouvement. C'est instantané, c'est immédiat. Eh bien, dans le bâillement, ce système ne fonctionne pas parce qu'il y a une latence dans la transmission du bâillement, ce n'est pas instantané. Et l'imagerie fonctionnelle cérébrale a montré qu'il n'y avait pas d'imitation, que ce n'était pas une imitation comme tous ces comportements que je viens de citer. Par contre, nous avons aussi dans notre cerveau, en particulier au niveau du lobe temporal, des structures qui nous permettent de décoder les émotions. Et Charles Bell nous a expliqué que les mimiques faciales étaient aux émotions ce que le langage est à la pensée. Et donc, en fait, nous exprimons beaucoup de notre ressenti par nos expressions du faciès et du visage. Et nous décodons les sensations que nous ressentons en mimant sans nous en rendre compte dans notre propre corps et en fait en le comparant à des sensations que nous-mêmes nous avons pu en ressentir, ce qui sont les bases de mécanismes de ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, ressentir la douleur de l'autre, le ressenti de l'autre. Et c'est en fait l'imagerie fonctionnelle cérébrale montre que ces structures, c'est-à-dire en particulier l'insula dans le cerveau, le cortex singulaire postérieur, le précuneus
particulier,
qui comprennent des neurones miroirs, mais qui sont des neurones qui servent non pas pour décoder une motricité, mais pour décoder des émotions. Et nous retrouvons une superposition flagrante de l'activation de ces structures émotionnelles au moment où nous bâillons en voyant bâiller un autre. D'autre part, il y a des travaux de plus comportementaux qui ont été faits aux États-Unis en faisant des interrogatoires de personnalité et en classant les personnes en empathiques ou de tempérament schizoïde. Et environ 75% de la population est de nature empathique et très sensible au bâillement. Et 25% de la population est très peu sensible ou pas sensible au bâillement des autres. Et on retrouve ce caractère de personnalité schizoïde. Et déjà, c'est ça qui est curieux, j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, au début des années 70, des psychologues qui s'intéressent au comportement des consommateurs et de la politique avaient déjà noté que les personnes qui sont très sensibles, facilement convaincus par des arguments d'un orateur, sont très sensibles au bâillement des autres et que les gens qui sont sur la réserve, qui ne sont pas sensibles aux argumentaires des politiciens ou de la publicité, sont insensibles au bâillement des autres. Et donc on retrouve constamment des choses qui ont un lien avec l'empathie.
Donc l'écho-kinésie, c'est une manifestation d'empathie avec le bâilleur.
Exactement. C'est en fait comme une mise à niveau des niveaux d'éveil, parce que on n'est pas sensible au bâillement des autres dans n'importe quelle circonstance. Si on n'est pas très stimulé, comme dans un transport en commun, comme une salle de cours, etc., on est un peu passif, dans une voiture, plusieurs passagers vont bâiller en même temps. Mais si vous êtes concentré dans une activité soutenue, vous m'écoutez avec attention, vous n'allez pas bâiller, nous n'allons pas bâiller ensemble. Nous ne pouvons bâiller que si nous ne sommes pas dans un état de concentration intellectuelle.
Ce qui serait ennuyeux, c'est que vous mettiez à bâiller maintenant.
Alors mais là, je suis persuadé que nos auditeurs, pour certains, qui sont très empathiques, ne cesse de bâiller depuis que je parle.
Bon, alors, Olivier Waluzinski, ces observations étant faites, vous nous avez expliqué bien, très bien même, le bâillement, d'abord son organisation, je dirais, musculaire, tout ce qu'il enclenche comme mouvement, le point de départ, finalement, de ce bâillement, les conditions dans lesquelles peuvent survenir un bâillement. Et finalement, je pense que grâce à vous, il y aura un peu une débitification de ce processus, hein, en montrant bien que ce bâillement survient dans des phases de transition qui sont des phases de transition qui correspondent à un comportement qu'on va qualifier de primaire.
Tout à fait. Hein? Mais il y a un mot que je n'ai pas dit et c'est sûrement, c'est que c'est involontaire. C'est-à-dire que les bâillements qu'on essaye de faire volontairement n'ont jamais les caractéristiques complètes. Et Buffon avait une jolie expression, parce qu'il parlait une belle langue, il disait « ce mouvement prévient le consentement de la volonté ». Je trouve cette expression magnifique. Et donc c'est totalement involontaire. On ne souhaite pas bâiller, on bâille parce que c'est une fonction qui nous vient de notre cerveau archaïque. On ne choisit pas de bâiller.
Et alors, le fait aussi que le bâillement, dans certaines situations, soit le reflet d'une empathie vis-à-vis de ce qui se passe autour de soi.
Voilà.
Bon, finalement, on est plutôt sympathique quand on bâille. Ceux qui ne bâillent pas ne sont pas très sympathiques.
Oui. Voilà. Mais ce qui est curieux, c'est que compte tenu de cette notion, ce soit aussi mal vécu dans la vie sociétale, puisqu'on est toujours à essayer de le masquer, le cacher.
Justement, vous qui connaissez tout là-dessus, est-ce que le comportement de bâillement est mal vécu dans toutes les sociétés?
La signification est différente suivant les cultures. En particulier, quand on regarde les cultures hindoues ou arabes, dans le cas de la culture hindoue, on a peur qu'il pénètre des maléfices par cette bouche largement ouverte, alors que dans la culture arabe, on a peur que l'âme s'évacue dans l'autre sens. Et il est probable que l'histoire de mettre sa main devant sa bouche, qui existe quasiment dans toutes les cultures, a des significations très différentes. Et ça, ce n'est pas automatique. Aucun autre animal ne cherche à cacher son bâillement et à le minimiser. C'est un phénomène culturel. Et il est probable aussi que dans nos pays, à la cour de Louis XIV, les dentitions étaient en très mauvais état, l'haleine était pestilentielle et on cachait son haleine en mettant sa main devant sa bouche.
D'accord. Alors, j'aurais maintenant qu'on a parlé du bâillement physiologique, hein, et c'est l'immense majorité des cas. Maintenant, il y a des conditions ou des situations pathologiques dans lesquelles le bâillement soit disparaît, soit est excessif.
Je crois que ce qui est extraordinaire dans le bâillement, là aussi, c'est que c'est le seul comportement qui soit donc physiologique, et comme tout phénomène physiologique, il a sa pathologie, mais en même temps, le bâillement peut déclencher, tout en étant physiologique, déclencher d'autres pathologies, et le bâillement, dans d'autres circonstances, peut guérir des pathologies.
Donc, exemple.
Alors, il n'y a rien, à mon avis, aucun autre comportement qui ait ce panel extraordinaire de toutes les situations. Les situations les plus fréquentes que l'on rencontre, c'est la sensation d'un bâillement incomplet qui n'apporte pas la satisfaction qu'on ressent normalement. Et ça, généralement, c'est lié à un état de tension interne, de perte de sensation de plaisir, de stress, et que des techniques de yoga et de relaxation permettent de récupérer. La disparition des bâillements, c'est soit d'ordre pharmacologique, par exemple les opiacés, les dérivés de la morphine, par un mécanisme neurophysiologique au niveau de l'hypothalamus, empêche les bâillements d'apparaître. Mais il y a aussi, dans certaines maladies de Parkinson, et pas toutes, cette disparition des bâillements qui vont réapparaître avec la prise de médicaments. Et là, donc, dans la dopamine, c'est peut-être un petit peu compliqué, il y a plusieurs types de récepteurs. Le bâillement semble très spécifique des récepteurs D3 à la dopamine, ce qui est intéressant d'un point de vue étude comportementale.
Ça, c'est les cas où le bâillement peut disparaître, c'est-à-dire les intoxications par les morphiniques et certaines maladies.
Voilà. Les grands consommateurs de café ne bâillent plus. Alors, les excès de bâillement, c'est à notre époque, au quotidien, j'exagère peut-être un petit peu, mais couramment pour nous médecins, un effet iatrogène. C'est-à-dire, c'est la prise d'un certain nombre de médicaments qui vont déclencher des bâillements. La liste est assez longue, mais la principale famille, c'est les antidépresseurs qu'on appelle sérotoninergiques, la fluoxétine, la paroxétine, etc., qui sont largement employés. Et avec cette incidence que, comme peu de médecins s'intéressent au bâillement, il y a tendance à penser que si quelqu'un baille beaucoup, c'est que le traitement n'est pas efficace, on augmente la dose, alors qu'en fait, on aggrave la situation et que la seule manière de faire disparaître ces bâillements est d'arrêter la prise des médicaments.
Alors, en dehors de ça, il y a des causes quand même qui sont des causes lourdes ou graves.
Il y a une cause fréquente quand même, c'est la migraine. Ça fait partie des podromes ou des postdromes de la crise et beaucoup de migraineux savent qu'ils vont faire une migraine parce qu'ils se mettent à bâiller beaucoup. Il y a l'effet de la progestérone très importante en début de grossesse qui fait que les femmes enceintes baillent beaucoup. Et puis après, il y a toute la pathologie tumorale cérébrale et en particulier, c'est classique, c'est dans les scores de notation des comas, en particulier aux États-Unis, plus que chez nous dans le Glasgow, il n'est pas répertorié, l'hypertension intracrânienne, l'augmentation de la pression dans la boîte crânienne est la source de bâillements répétés. On peut penser que c'est le cerveau archaïque qui essaye de stimuler le cortex qui ne répond pas. On voit des bâillements très fréquents à la phase d'installation des accidents vasculaires cérébraux et puis des choses qu'on pourra éventuellement évoquer très particulières du bâillement chez l'hémiplégique.
Oui.
Il y a des phénomènes de bâillement très fréquents dans le sevrage, en particulier au sevrage des morphiniques, au sevrage des grands mangeurs de café. Et puis, il y a des bâillements dans les états dyspeptiques, les gens qui ont un transit ralenti, l'estomac très plein et qui n'arrivent pas à se vidanger normalement et qui bâillent beaucoup.
Bon, enfin, pour retenir ce que cette longue liste, Olivier Waluzinski, comme vous le disiez, la cause la plus fréquente des excès de bâillement, c'est aujourd'hui, dans notre civilisation, la prise excessive de certains types d'antidépresseurs.
Mais comme les observations que j'ai présentées au départ, il faut toujours chercher un petit peu tout et chercher une pathologie tumorale cérébrale, en particulier au niveau hypophysaire, et puis associée à certaines formes d'épilepsie.
Alors Olivier Waluzinski, je voudrais vous remercier de ce travail que vous avez fait, de cet acharnement que vous mettez à mieux connaître et à mieux faire connaître le bâillement. Et je voudrais rappeler que toutes les informations sont accessibles sur le site internet que vous avez développé, www.bâillement.com. Merci à vous, Olivier Waluzinski.
Merci.
Cette émission d'Olivier Lioncamp a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par Dominique Costa, avec M. Woumin à la prise de son. Vous pouvez bien entendu podcaster cette émission durant une semaine, la réécouter durant un mois sur le fameux site internet de France Culture, www.franceculture.com. À la semaine prochaine.